Bonsoir Aurélie Jean.
Bonsoir Zoé.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, alors vous m'avez dit juste avant cette émission, on se limite à dire que je suis docteur en sciences et entrepreneur, parce qu'effectivement on pourrait vous définir.
Casquettes.
Vous avez beaucoup de casquettes, dont une récente qui est mentor à la NASA.
Oui, depuis cet été. Oui.
Voilà. Vous êtes donc, alors le terme qu'on utilise souvent c'est numéricienne, ça vous va?
Oui, ça me va tout à fait.
Numéricienne, parce qu'en fait, votre travail c'est de développer des algorithmes, de l'enseigner aussi, cette science des algorithmes, à la fois pour des entreprises et à l'université. Vous racontez votre livre, votre parcours dans un livre qui s'appelle « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Alors vous, vous êtes bretonne et c'est intéressant, on vous le racontait, vous êtes dans une formation tout à fait franco-américaine, vous avez été formée à la Sorbonne, à l'ENS.
À Sorbonne Université.
À Sorbonne Université,
excusez-moi.
Oui. Mine Paris Tech,
oui.
Il y a trop de changements de nom.
Trop de changements dans les noms.
C'est ça. Et au MIT, le légendaire, la légendaire université de Boston. Quel est le projet de ce livre pour vous, Aurélie Jean? C'est un livre qu'on sent militant d'une certaine manière sur la manière dont vous en faites un récit tout à fait personnel. Vous êtes une femme jeune, vous n'êtes pas une geek et vous racontez en fait dans ce livre comment vous-même découvrez ce monde de l'algorithme.
Oui, merci Zoé. Absolument. En fait, j'ai commencé ce livre il y a 2 ans pour justement décrire à travers mon expérience et mon histoire depuis l'âge de 18 ans où j'ai mon premier ordinateur. Donc j'étais très en retard. Enfin,
oui.
Moi je pense du coup ça donne de l'inspiration à tout le monde. Non, je n'aime pas Star Wars. Je suis désolée. Et donc j'explique dans le livre mon parcours, mon histoire, et j'essaie aussi d'accompagner le lecteur même à travers l'écriture de mon premier algorithme que j'invite le lecteur à l'écrire avec moi de façon à démystifier cette discipline et à quelque part aider le lecteur à avoir une certaine grille de lecture pour dépassionner les débats et ramener le tout à la raison.
Alors parce que c'est très sujets. Intéressant, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est un algorithme? Moi, personnellement, je faisais une erreur orthographique relativement souvent au début où j'écrivais algorithme avec un Y. On réapprend dans ce livre l'origine tout simplement sémantique de ce mot qui n'a rien à voir avec le grec.
Non. Absolument pas. Oui, vous
pourquoi avez... c'est important de le rappeler et que c'est surtout un processus mathématique avant d'être informaticien?
Absolument. Alors c'est important de le rappeler parce que je pense qu'avec l'accélération des technologies et de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, je pense qu'il est important de se resituer dans les temps longs. Donc je le fais aussi dans le livre, dans les premières pages, où j'explique que le mot algorithme vient du nom latinisé algorithmi du grand mathématicien perse Al-Khwarizmi, mais le concept même, donc ça c'est le 9e siècle de notre ère, mais le concept même d'algorithmique en fait vient de 3 siècles avant notre ère, parce que c'est Euclide qui propose avec son œuvre Les éléments, des méthodes de résolution mathématiques, logiques, pour résoudre un problème, répondre à une question. Donc l'algorithme, en fait, c'est une séquence en fait d'opérations, mathématiques ou pas d'ailleurs, pour résoudre un problème, répondre à une question. Et lorsqu'on parle d'algorithme aujourd'hui, on sous-entend l'algorithme numérique, qui est en fait un algorithme dont le but est d'être implémenté dans un ordinateur à travers un code informatique pour pouvoir tourner sur un ordinateur.
Alors effectivement, on découvre avec vous comment est-ce que vous commencez à écrire des algorithmes, c'est-à-dire avec une feuille et un stylo et pas avec un ordinateur.
Je continue à les écrire avec une feuille, ouais, exactement.
Comment est-ce qu'on les pense? On vous suit dans votre première recherche, vous travaillez sur le caoutchouc et sur
oui.
La manière dont on peut prédire la manière dont le caoutchouc évolue en fonction de la matière qu'on a assemblée. Et très vite arrive, mais pas si vite en réalité, la notion de biais algorithmique que vous découvrez relativement tard dans votre carrière. Ça, c'est assez étonnant.
Absolument, je l'ai découvert en fait à travers ma recherche dans la médecine, c'est-à-dire juste après ma thèse en 2009, plus exactement à l'Université d'État de Pennsylvanie avec le professeur George Engelmeyer, qui lui en fait se battait contre les biais dans le cadre de la recherche médicale, des essais cliniques par exemple, ou des essais en laboratoire, et qui m'a dit mais est-ce qu'il y a des biais dans tes algorithmes? Ma première réaction, c'est ce que j'écris dans le livre, je rigole, parce que je dis bah non, il n'y a pas de biais vu que c'est des maths. Voilà. Et donc de là, il m'explique comment il pense qu'on peut aussi introduire un biais dans les algorithmes à travers nos hypothèses, nos connaissances peut-être biaisées de la réalité, ou tout simplement à partir d'essais cliniques ou d'observations, de tests de la part de médecins qui sont possiblement biaisés également.
Là, on a eu un cas récent avec Apple et ses solutions bancaires. Que s'est-il passé? Parce que ça, vous le rappelez, et on en parle régulièrement dans cette émission, l'algorithme apprend par des données et le passé peut l'induire en erreur.
Exactement. Donc, il y a un cas très récent en fait, qui s'est passé la semaine dernière, il y a 10 jours maximum, avec l'application de Apple Card, qui en fait estime pour vous donc la somme qui peut vous être proposée dans le cadre d'un crédit. Et on a remarqué que les hommes et les femmes, pour les mêmes conditions fiscales et le même historique de crédit, on pouvait avoir un facteur, jusqu'à un facteur de 20, un rapport de 20 entre les sommes proposées aux femmes et aux hommes. Et bien évidemment, on propose des sommes moins importantes pour les femmes. Et
donc, un revenu fiscal égal avec conditions exactement historiques.
Exactement. Donc en fait, la raison est assez simple, mais à la fois assez compliquée. C'est qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit, Zoé, les algorithmes apprennent sur des données du passé. Donc ils ont le risque de reproduire le passé. Et comme on le sait, l'émancipation économique des femmes de ces 20 dernières années, par exemple, a fait qu'aujourd'hui, on gagne sûrement plus et on a encore des inégalités salariales, donc il y a encore des choses à faire. Mais cet algorithme a sûrement appris sur le passé où les femmes avaient des crédits moins importants, moins d'argent sur leur compte en banque, ou peut-être, voilà, tout simplement. Donc l'algorithme a reproduit ce qu'il y avait dans le passé. Donc c'est très important de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, sans aller dans le détail mathématique, mais de comprendre ce qu'ils font de manière à pouvoir avoir un œil critique lorsqu'on déploie ces algorithmes en production pour que les gens les utilisent. Donc c'est le cas de l'application d'Apple.
Et vous le balayez en fait effectivement dans la première partie de ce livre et tout au long de ce livre effectivement les vigilances que l'on doit avoir à l'égard de ces algorithmes. Vous dites aussi, vous racontez dans plusieurs exemples pourquoi on ne peut pas confier toute la responsabilité de la réalité à des algorithmes quand il s'agit d'évaluer les victimes d'un attentat, quand il s'agit de rendre des décisions de justice. Et en même temps, dans un double moment, vous invitez aussi les gens à ne pas se cacher derrière l'algorithme. Vous parlez par exemple de la manière dont on a chargé l'algorithme de Facebook dans l'émergence d'un mouvement comme les Gilets jaunes.
Oui, exactement.
Pourquoi est-ce que c'est important justement ? Quel est le fonctionnement que vous voulez déminer là-dedans ?
Alors justement, donc moi je suis une techno-réaliste, c'est-à-dire que j'aime mon métier, j'aime les algorithmes, ils font des choses formidables, mais vraiment, dans la médecine, dans l'éducation, la finance, plein, dans le journalisme même. Mais ce que je dis en fait aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se cacher derrière l'algorithme. L'algorithme propose une décision, propose une suggestion de décision, mais ne vous donne pas une décision, il n'y a pas de vérité absolue en fait. Et c'est vrai que, et aussi dans le cas de l'algorithme de Facebook, c'était donc il y a un an,
on avait parlé ici dans Soft Power.
D'accord.
Changement d'algorithme qui privilégiait plus les groupes que
les individus. Voilà, ce qui est très important. Et donc, on a commencé, j'ai vu pas mal de choses dans les médias disant qu'en fait, c'était l'algorithme de Facebook qui avait créé le mouvement des Gilets jaunes, un raccourci qui est pour moi quand même grossier. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, on ne peut pas culpabiliser l'algorithme de Facebook pour la création d'un mouvement. C'est pas possible. Sinon, à ce moment-là, on peut aussi culpabiliser, inculper les lignes de TGV et les emails ou le téléphone contre la poste et les voitures pour le déplacement d'individus et de leurs opinions. Donc, il faut aussi avoir ses propres responsabilités et rationner, enfin, donner une certaine raison à ces débats pour comprendre ce qui se passe et voilà.
Alors, on parlait, on chroniquait ici la semaine dernière avec Emmanuel Paquette, le livre de Yann Lequin que nous avons lu avec beaucoup d'attention, qu'on a aussi beaucoup aimé, mais en même temps qui est un livre sur l'intelligence artificielle. L'algorithme fait partie des mécanismes qui sont au cœur de l'intelligence artificielle.
Avec et en particulier sur le deep learning.
En particulier sur le deep learning, qui est la forme qui l'intéresse le plus. Et on regrettait un petit peu dans ce livre, finalement, que Yann Lequin n'aille peut-être pas au bout des enjeux éthiques profonds que pose la mutation prochaine qu'on va vers l'IA. Vous, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui dans notre rapport à ces intelligences artificielles?
Bien sûr, moi ce que je préconise, et c'est ce que j'essaie de faire à la hauteur de mes moyens avec ce livre, c'est de donner les clés aux gens pour comprendre à la hauteur de leurs moyens et qu'ils puissent avoir le choix. Il y a un moment dans le bouquin, justement, je dis, je ne veux pas qu'on entre dans une société où seuls les gens qui comprennent auront le choix. Moi, je veux que les gens aient le choix sur les outils qu'ils utilisent, sur ce qu'ils font, comment ils le font, donc qu'ils comprennent ce qui est fait avec leurs données, comment la donnée est collectée, comment elle est effacée aussi, et savoir aussi de comprendre ce qui se passe derrière ces outils, et que ce soit des plateformes, des applications, des logiciels pour le travail ou pour la vie privée.
Et concrètement, pour faire le lien avec l'émission que nous allons continuer avec Roch-Olivier Maistre sur les CSA, le CSA a une mission de surveillance, une mission d'étude. Dans ses nouvelles missions élargies, il va avoir à traiter avec les plateformes dont Netflix, mais évidemment aussi avec YouTube, où les algorithmes, pour le coup, existent. Il y a une grande opacité à la fois sur la manière dont ils fonctionnent. Quel pourrait être le rôle? Vous parlez des gens qui comprennent. Quel devrait, selon vous, être le rôle d'une entité comme le CSA? Face à ces algorithmes-là, est-ce qu'il faut, à mon avis, il y a une nécessité de coopération?
Oui, c'est ce que disait Roch-Olivier Maistre, c'est-à-dire que c'est un secteur en mutation. Donc il y a l'algorithme qui entre en jeu parce qu'on a des nouveaux médias, des nouveaux modes de diffusion et de suggestion. Donc c'est vrai qu'il faut que le CEA s'arme, et il le fait déjà parce que c'est un hasard, mais en fait on se connaît avec le président du CSA, puisque je fais partie du comité d'experts de protection de la jeunesse en lien avec l'algorithmique de ces plateformes. Donc on essaie de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent pour essayer de donner de proposer même des solutions aux grands acteurs. Et donc ça passe aussi.
Vous essayez de comprendre, donc ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas accès à ces algorithmes.
C'est plus compliqué que ça, voilà. Donc on essaie de comprendre par ce qu'on appelle par interrogement, un raisonnement par l'absurde, de l'ingénierie inversée, puis aussi par des, on discute avec eux aussi. Donc c'est important. Donc il faut aussi que ces plateformes, YouTube, puissent travailler aussi avec le CSA pour s'en donner, s'ils ne veulent pas donner tous les éléments de la recette magique, en tout cas, qui donnent des éléments en toute transparence sur ce qu'ils font avec la donnée, sur ce qu'ils recherchent à faire avec ces algorithmes, de façon à ce que le CSA puisse aussi proposer des solutions s'il y en a, et il y en a beaucoup.
Et est-ce qu'il vous semble à l'écoute, les réponses à toutes les deux questions, à tous les deux ? Parce que vous m'avez parlé du fait, par exemple, que vous avez mis en évidence le fait qu'un algorithme censé protéger des jeunes pour qu'ils ne soient pas exposés à de la pornographie ou des images violentes, vous avez montré qu'il était mis en échec.
Alors, il était mis en échec, ce n'est pas moi qui l'ai démontré, hein, ça a été
le CSA.
Résultat de, voilà. Ou même, ça a été vu dans les news, en fait, des enfants ont été sur YouTube, ont vu du contenu qui ne leur était pas destiné. Je pense qu'on leur a parlé, par exemple, et c'est vrai qu'on a eu des retours intéressants, et ça ne marchera que sur du moyen terme, ce n'est pas sur une réunion que ça peut marcher, mais en tout cas, nous, on propose aussi des solutions au sein du comité d'experts et parfois des solutions qui ne sont pas forcément des solutions algorithmiques. C'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup Aurélie Jean. Je rappelle le titre de ce livre, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Vous êtes un peu Alice au pays des merveilles.
Exactement.
La métaphore de l'autre côté du miroir que vous filez.
C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Voilà, ça paru ce vendredi, je crois. France Culture, mercredi. Voilà. Mais c'est vrai que les livres sortent le mercredi, comme les films. Voilà.